ce n'est que c'est le multifactoriel. Même s'il y a des incertitudes quant à l'application et au poids de certains facteurs. Donc le premier facteur, c'est le sexe, puisque la majeure partie des cas de cancer sont observés chez les femmes. Le deuxième groupe de facteurs, c'est les antécédents personnels, donc pour une personne qui a fait un cancer de l'ovaire, un cancer donc de l'endomètre. Donc ces cancers-là, chez une personne, peuvent être considérés comme un poids dans l'apparition d'un cancer du sein. Il y a également les prédispositions génétiques. On a certains traitements hormonaux qui sont essentiellement à base d'estrogène. Le mode de vie aujourd'hui, la sédentarité, l'inactivité, la consommation d'alcool, la consommation aussi de tabac et surtout aussi le surpoids. Ce sont des facteurs-là, en tout cas jusque-là, qui concourent à être à l'origine du cancer du sein.
Nous avons un auditeur qui nous écrit depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il veut savoir en quoi consiste le dépistage.
Le dépistage, c'est une méthode qui va nous permettre d'identifier des personnes présentant donc une maladie. Et pour ce cas du cancer du sein, on a l'avantage que ce soit... Ça passe tout d'abord par la palpation. La palpation, donc l'examen, donc, puis après la palpation donc, du sein, qui peut révéler une anomalie. En se disant que toute anomalie n'est pas forcément un cancer. Par contre, s'il y a une anomalie, la patiente donc, va être dirigée vers un centre où on peut faire de la mammographie.
Donc, c'est pour montrer que le dépistage est une étape importante ou bien un élément important dans la lutte contre le cancer du sein?
Oui, absolument. Se faire dépister, donc, c'est de diagnostiquer au stade 1 le plus précoce. Cela permettrait d'avoir des chances, d'augmenter, d'avoir de meilleures chances de réussir.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
À quel âge une femme devrait commencer la palpation mammaire?
Toute femme qui aurait vu donc cette première menstruation, elle a bienvenue pour ce dépistage particulièrement. Donc l'autopalpation se fera donc par la patiente et dans le cas contraire, si elle se présente dans un centre où le dépistage se fait, elle pourra donc bénéficier de l'accompagnement des soignants pour identifier s'il y a une anomalie ou pas.
Pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup de centres médicaux, on affirme que c'est plutôt vers l'âge de 45-50 ans qu'il faut commencer à s'inquiéter concernant le cancer du sein?
Oui, c'est comme je dis, c'est vrai que c'est là où on a le plus de cas. Par contre, on a également des cas à l'âge déjà de 11 ans. Donc, c'est pour dire que au fur et à mesure donc, qu'on prendra de l'âge, ce serait donc de garder ce dépistage-là comme une habitude. Au moins le faire une fois par an dans les centres de santé. Et aussi, les femmes sont elles-mêmes sensibilisées à se former à l'autopalpation aussi des seins.
Alphonse Boaki, notre auditeur, a une autre question. Il veut savoir si le cancer du sein est traitable.
C'est la chance. Le cancer du sein est traitable de nos jours. En rajoutant que ça dépend du stade aussi. Les meilleures chances sont pour les cancers du sein diagnostiqués précocement, donc à ce stade donc de début. Par contre, à des stades très avancés, l'issue donc du traitement souvent, n'est pas souvent favorable. Ouais. À un stade très précoce, les chances de réussite du traitement sont nettement meilleures.
Est-ce qu'il y a aussi un moyen de le prévenir?
Oui, bien sûr, on peut prévenir le cancer. Hein. Si nous avions discuté des facteurs de risque, donc en jouant sur ces facteurs de risque ou en intervenant donc sur ces facteurs de risque, bien évidemment, on réduit le risque. Donc, il faut avoir régulièrement une activité physique pour éviter l'obésité. Et enfin, la détection donc précoce en passant par le dépistage.
Vous vous êtes associé aux autorités sanitaires maliennes pour lancer cette campagne de dépistage contre le cancer du sein au Mali. Peut-on savoir quelles sont les actions que vous menez?
Nous sommes en partenariat avec le ministère, avec aussi les associations. Nous avons également l'Amicale des femmes d'Orange du Mali qui initie déjà des campagnes de dépistage dans des centres de Bamako. L'objectif de nous, c'est de mutualiser nos moyens pour l'étendre, de telle sorte que le message puisse toucher les plus réticentes et celles qui n'ont pas souvent la chance d'en entendre parler. En plus de cela, les actions similaires, donc les méthodes seront appuyées donc, en entrant ce centre de santé, ce grand mois de dépistage, appuyer aussi les soignants en formation. Et surtout pour les patients pour lesquels une anomalie, par exemple, du sein sera identifiée, il s'agira de faciliter la réalisation donc, de la mammographie au cours donc, de cette campagne.
Vous avez souligné un point très important, convaincre les réticentes. Qu'est-ce qui fait que certaines femmes ou beaucoup de femmes sont encore réticentes à l'idée de se faire dépister un cancer de sein?
De mon point de vue, j'ai beaucoup pensé que c'est un peu de la fatalité, donc la peur de connaître le nom des malades. Donc c'est cette tendance qu'on cherche justement à inverser parce que c'est une maladie qui est curable, c'est une maladie qui peut se détecter à un stade de début, ce qui donne donc des chances, hein, de très bonnes chances de réussite du traitement.
Ok. À ce stade-là, quelle doit être l'implication de la communauté?
Oui, moi je crois que tout le monde est appelé à mettre un peu la main dans la pâte, que ce soit les pères, les mères, les autorités, que ce soit aussi les associations, les artistes, les professionnels de santé. Nous avons cette chance-là d'avoir une grande chanteuse Bintou Soubounou ici au Mali, qui est également déterminée. Parce que le message à tout le monde, ce n'est pas une fatalité, et c'est une maladie qui est avec de très bonnes chances de guérison si il est diagnostiqué.
Ce n'est pas une fatalité. Alphonse Mbouaki aimerait savoir si, à un certain moment, le cancer peut devenir fatal et incurable.
Oui, à un moment donné, à un stade vraiment très avancé. Par contre, le défi aussi pour ça, c'est un peu la mise en dessous des services capable de procurer des soins palliatifs et d'accompagner ces patients-là en fin de vie pour garder leur honneur et leur vie.
Docteur, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour éviter à ce que le cancer du sein devienne une fatalité pour les femmes?
Oui, il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire. C'est informer, de sensibiliser tout le monde autour de nous, de dépistage.
Mais est-ce que son traitement est à la portée de toutes les patientes?
Non, pas du tout. Je prends le cas particulier du Mali, où les traitements donc sont gratuits. Le traitement est gratuit, par exemple, pour ce qui concerne le traitement médicamenteux, quand les stocks sont disponibles au niveau des sortes du ministère de la Santé, puisque c'est censé être gratuit, le traitement. Par contre, pour ce qui est comme chirurgie, pour ce qui est, par exemple, comme radiothérapie, et tout ce qu'il y a comme bilan avant le traitement, pendant le traitement, c'est là où MSF, en partenariat avec le ministère de la Santé, rend ce traitement gratuit donc pour les femmes qui sont dépistées. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la Santé depuis fin 2018. Et ce programme se poursuit même en dehors du mois d'octobre.
Un de nos auditeurs, Laska Sek, dit que la lutte contre le cancer du sein ne devrait pas se limiter seulement au mois d'octobre.
Oui, je suis d'avis avec lui. Cette fois-ci, je crois que le mois d'octobre, c'est mondial. Hein, c'est un mois, profite un peu de ce mois et pour sensibiliser un peu partout. Sur l'intérêt donc, du dépistage.
Merci beaucoup, docteur Koudiati, d'avoir répondu aux questions de VOA Afrique. Vous venez de suivre l'interview que nous avions eue avec le docteur Marc Unteni Koudiati, coordinateur médical Médecins sans frontières au Mali. À présent, nous vous invitons de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur la pollution de l'air domestique, une crise sanitaire négligée. Et comment se protéger contre la pollution à l'intérieur des maisons? Nous aurons les conseils d'un expert. Ensuite, votre plante d'intérieur peut-elle purifier l'air que vous respirez? La réponse dans Vrai ou Faux. Enfin, les chercheurs surveillent les infections à coronavirus dans les eaux usées. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le kérosène, le bois, le charbon sont certaines substances utilisées par de nombreuses personnes dans le monde pour cuisiner et se réchauffer à l'aide de foyers ouverts ou de simples fourneaux. Selon les experts, ces pratiques de cuisson contribuent à des niveaux élevés de pollution de l'air à l'intérieur des habitations et constituent un véritable problème de santé publique. Près de 4 millions de personnes meurent prématurément chaque année de maladies liées à la pollution de l'air domestique telles que la pneumonie, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer du poumon, selon l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des victimes vivent dans les pays à faible revenu, particulièrement les femmes et les enfants. Partons tout de suite au Nigeria, où ces pratiques de cuisson sont chose courante dans les zones rurales. Reportage à Alassane Bala à Abuja, Thierry Kaoré à le récit.
Saadatou Isaï est une habitante de Kwaduma, un village de la périphérie de la capitale nigériane. Elle s'efforce d'allumer le feu de bois traditionnel pour la cuisine de la famille. Cela fait partie de ses routines quotidiennes. Le bois de chauffage est sa seule source d'énergie pour cuisiner, malgré les risques pour la santé qui y sont associés. Le processus, pour elle, comprend l'utilisation de kérosène et de déchets plastiques pour faire brûler le bois de chauffage. La fumée qui s'échappe est inhalée non seulement par elle, mais aussi pour d'autres membres de la famille.
Il y a des femmes dans cette communauté avec des complications de santé. Et lorsqu'elles se rendent à l'hôpital, une fois diagnostiquées, on leur dit que leur maladie est due à une longue inhalation de fumée pendant la cuisine.
Saadatou fait partie des milliers de femmes nigérianes qui dépendent uniquement du bois de chauffe pour cuisiner. Les experts de la santé affirment que la fumée de la combustion du bois et des déchets plastiques est responsable de la plupart des cas de douleurs thoraciques, des maux de tête, de cancer et de problèmes de reproduction chez les femmes du nord du Nigeria.
Lorsqu'une personne inhale de la fumée provenant de la combustion de plastique, cela affecte le système respiratoire et entraîne de nombreux problèmes de santé. Et après une longue période d'exposition, la fumée provoque le cancer de poumon.
La fumée du bois de chauffe a également des effets néfastes sur l'environnement. Les responsables nigériens de l'environnement disent qu'ils s'efforcent d'éduquer les populations sur ces risques.
Nous faisons de notre mieux en tant qu'agence pour éclairer les gens sur les dangers de l'utilisation du bois de chauffe pour cuisiner à cause de la fumée. Mais le principal défi est que la plupart de ceux qui utilisent cette méthode sont en zone rurale et vivent dans la pauvreté. Ils ne peuvent même pas voir d'énergie de cuisson propre et encore moins l'acheter.
L'année dernière, le ministre nigérian de l'Environnement a révélé que plus de 90 000 femmes et enfants meurent chaque année à cause de la fumée et d'autres complications liées au bois de chauffe. Le ministre a déploré que 70% de la population nigériane dépend uniquement du bois de chauffe pour leurs besoins énergétiques, pour la cuisine et le chauffage. Cependant, malgré le risque, des femmes comme Saadatou continuent d'utiliser du bois de chauffe pour cuisiner en raison du manque d'accès à l'énergie propre dans les zones rurales du Nigeria.
Le docteur Yubrin Mora Gachemba est spécialiste en médecine interne à l'hôpital de Nairobi au Kenya. Elle nous en dit plus sur la pollution atmosphérique domestique.
Nous pouvons voir l'effet cumulatif de cette pollution de l'air intérieur qui affecte nos mères. Il y a tellement de femmes africaines qui ont des maladies chroniques obstructives des voies respiratoires. Cela apparaît plus tard et nous savons que c'est principalement à cause de ce qu'elles utilisaient pour cuisiner tout au long de leur vie. Les gens vivent plus longtemps maintenant, donc nous faisons un meilleur diagnostic. Mais nous pouvons faire également des diagnostics précoces parce que nous avons les instruments. Ainsi, outre les maladies respiratoires courantes comme l'asthme, la bronchite chronique, nous constatons de plus en plus d'allergies à cause des particules qui se trouvent dans la biomasse à laquelle nous sommes exposés. De la maladie pulmonaire restrictive à la maladie pulmonaire obstructive, nous en voyons plus, mais être aussi dans un espace clos sans circulation adéquate et inhaler les particules affecte d'autres organes et augmente le risque de contracter, par exemple, la maladie coronarienne. Il existe un lien entre cette pollution chronique de l'air intérieur et les maladies cardiaques et la cardiomyopathie. Et dans cet air, la pollution ne vient pas seulement de la fumée. Nous avons les produits chimiques qui sont utilisés dans le sol, sur la verdure. Nous avons également l'utilisation des insecticides et des pesticides dans les plantations. Et cela expose les personnes qui l'inhalent. Alors oui, il y a de la fumée et d'autres choses, mais maintenant, nous constatons que les femmes et les enfants sont les plus exposés. De plus, l'exposition à certains de ces sous-produits de la combustion peut augmenter le risque de cancer. Les plastiques sont à l'intérieur, créent cette pollution et une exposition continue peut entraîner un risque accru de certains cancers, en particulier ceux des voies respiratoires. Si le processus de combustion se poursuit et que vous le faites en continu, cela augmentera non seulement le risque immédiat d'empoisonnement au monoxyde de carbone, mais à long terme, vous développerez d'autres maladies. Le plus important est juste d'en parler. Je pense que beaucoup d'organisations non gouvernementales ont essayé d'encourager la recherche d'autres options en termes de modalités de cuisson dans nos petits villages des régions reculées, afin que les gens utilisent moins de bois de chauffage qui exposent nos femmes à cela et trouvent une autre façon plus moderne de cuisiner. Je pense que les gens sont conscients que cela peut éventuellement causer des problèmes et c'est par là que nous devrions commencer. Il suffit également de développer l'accès à l'électricité dans les zones rurales.
Les plantes d'intérieur sont agréables et embellissent votre maison, mais certaines personnes pensent que l'un des avantages est leur capacité à purifier l'air. Est-ce vrai ou faux? Eh bien, selon l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, EPA, le dioxyde de carbone et les composés organiques volatiles, entre autres, peuvent être présents dans la maison à travers certains matériaux et tous ont un impact sur la qualité de l'air. Grâce au processus de photosynthèse, les plantes convertissent le dioxyde de carbone que nous expirons et éliminent les gaz de l'air par un processus appelé absorption. Par conséquent, les plantes peuvent absorber les gaz nocifs à travers les pores de leurs feuilles, filtrant et nettoyant l'air. Néanmoins, mettre des plantes dans la chambre à coucher ne fait pas l'unanimité. Certains experts suggèrent de retirer les plantes de la chambre lorsqu'on dort la nuit, car le manque de lumière ne permet pas le processus de photosynthèse. L'autisme, un trouble du développement neurologique, est souvent mal diagnostiqué et trop souvent mal perçu. Mais depuis plusieurs années, un centre en Côte d'Ivoire propose des soins de support aux jeunes. La danse-thérapie fait une différence. Reportage Yacine Sio pour VOA Afrique.
Au centre d'action médico-psychosociale de l'enfant, les journées ne commencent pas vraiment comme dans une école classique. Ici, la semaine démarre dans la bonne humeur par un apprentissage de chorégraphie. Âgés de 3 à 22 ans, les enfants inscrits dans ce centre souffrent d'autisme, de déficience intellectuelle ou de trisomie 21. Mais face au rythme et à leur professeur, Mathieu Quadio, tous sont égaux et ont envie d'apprendre. Ce professionnel est aujourd'hui l'un des seuls danseurs thérapeutes du pays. À raison de 2 séances par semaine, il permet à ces enfants vulnérables, généralement mal considérés dans la société ivoirienne, d'accepter le temps d'une danse leur handicap.
La danse thérapie est un bain sonore, rythmique et des ondes, une transmission d'ondes positives, parce que ce travail permet aux enfants d'être équilibrés et on permet à ces enfants-là d'être valorisés, parce qu'on leur dit qu'il y a de la place pour eux. La danse n'est pas faite que pour des personnes dites autonomes ou dites en bonne santé, elle est faite pour toutes les personnes.
La danse permet à ces enfants de prendre la pleine possession de leur corps, de leur mouvement. Ensemble, ils créent du lien social, eux qui, trop souvent, sont marginalisés et se retrouvent seuls. Et tant pis si la synchronisation n'est pas au rendez-vous, l'essentiel est ailleurs.
L'objectif, c'est le lien social. L'objectif, c'est le bien-être. L'objectif, c'est la valorisation de ces personnes.
Dans ce centre de prise en charge pour enfants à besoins particuliers, on évalue et diagnostique dans un premier temps les troubles dont souffre l'enfant avant de lui proposer un suivi individualisé. Une méthode inédite en Côte d'Ivoire où les structures pour enfants en situation de handicap sont quasi inexistantes. Près de 90 enfants sont inscrits dans ce centre qui ne reçoit aucune aide ou presque de l'État et survit grâce à des dons de mécènes et aux frais d'inscription.
L'objectif du centre, c'est d'abord l'autonomie. Parce que quand ils arrivent ici, vous avez vu la classe des petits, le niveau zéro, ce sont des enfants qui ne sont pas autonomes. Alors nous leur apprenons l'autonomie, les habiletés sociales. Bonjour, merci, au revoir, je veux, donne. En tout cas, les bases même de l'autonomie.
Un accompagnement adapté à l'enfant qui fait le bonheur des parents, souvent démunis dans ces situations.
Si ce centre n'existait pas, j'aurais continué comme au début, j'allais chez une ergothérapeute et c'était assez cher.
La méthode plaît aux enfants autant qu'aux parents. Les demandes d'inscription affluent et la directrice étudie un projet de délocalisation du centre actuel vers un site de 1000 m² et la construction à moyen terme d'un second centre, toujours pour danser, apprendre et s'autonomiser.
Les chercheurs utilisent un système de surveillance qu'ils disent innovateur pour identifier le coronavirus dans les eaux usées qui, selon eux, pourrait potentiellement détecter les infections de COVID-19 dans une communauté donnée. En voici davantage avec Nani Talani.
La chose puante qui se trouve sous le campus de l'Université d'État du Michigan, ce ne sont plus simplement des déchets, c'est devenu un outil de santé publique. Des écoles supérieures à travers les États-Unis qui sont aux prises avec le coronavirus testent les eaux usées pour détecter la présence du matériel génétique du virus.
Il est utilisé sur le campus comme alerte précoce et moyen de communication afin de faire savoir aux étudiants qu'il y a une excrétion de virus dans leur dortoir.
Les experts disent que cela peut être un moyen peu coûteux de surveiller des personnes qui ne savent peut-être même pas encore qu'elles sont malades.
Être en mesure de détecter un individu asymptomatique ou avant un test clinique positif, juste grâce au programme de surveillance des eaux usées, c'est important pour éviter des événements majeurs.
La société basée à Troy, dans le Michigan, s'est associée à l'Université d'Oakland pour mettre en place un laboratoire à l'école afin de tester des échantillons d'eau usée pour détecter la présence du virus. Les chercheurs disent que les résultats ne peuvent pas encore montrer de manière fiable combien de personnes infectées vivent dans une communauté, mais ils peuvent indiquer si ce nombre augmente ou diminue. Et cette indication peut arriver des jours avant que de telles tendances se manifestent par des tests standards ou des hospitalisations.
Vraiment, ce n'est pas très différent d'un test sanguin. Lorsque vous allez aux toilettes, vous éliminez le virus. Vous pourriez être asymptomatique, mais vous continuez à éliminer le virus.
Candice Miller et d'autres responsables espèrent que les leçons tirées des efforts de test des eaux usées pour le coronavirus pourront être appliquées aux futurs problèmes de santé.
Nous voici au terme de votre santé, votre avenir, qui était structuré autour du cancer du sein au Mali. Notre invité, le docteur Marc Unteni Koulgati, a expliqué que le cancer du sein n'est pas une fatalité et qu'il est curable. Il a aussi mentionné quelques moyens de le prévenir. Le docteur Marc Unteni Koulgati est ordinateur médical Médecins sans frontières au Mali. Dans la deuxième partie de ce programme, nous vous avions proposé Carnet de santé avec Linor Moudou. Cette émission santé a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nani Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir.